Chapitre 19. La condamnation du Seigneur et sa crucifixion. Dans ces dernières scènes solennelles, nous voyons, d'une part, la présence de Jésus mettre en évidence tout le mal de la chair et, d'autre part, la méchanceté de l'homme manifester la perfection du cœur de Jésus. Face à la haine meurtrière des Juifs, à l'injustice et à la lâcheté du juge d'entre les nations et aux insultes des soldats, nous trouvons en Christ une soumission parfaite, une patience infinie et une calme dignité. Il ne prononce pas un mot de ressentiment et ne recourt pas à sa toute-puissance pour écraser ses ennemis. L'heure était venue de glorifier Dieu par l'œuvre de la croix et il est obéissant jusqu'à la mort. Toutefois, nous savons que Dieu n'est pas indifférent aux insultes dont son Fils a été couvert. Le jour vient où celui que les hommes ont couronné d'épines et dont ils se sont moqués comme roi des Juifs apparaîtra comme roi des rois avec plusieurs diadèmes sur sa tête. Celui que les hommes ont revêtu d'un vêtement de pourpre viendra sur la terre vêtu d'un vêtement teint dans le sang. Et celui à qui, dans leur méchanceté, les hommes ont donné des soufflets frappera les nations avec une verge de fer. Les psaumes et les prophètes annoncent à la fois les souffrances et la patience du Seigneur en présence de ses ennemis et ses gloires futures lorsque ses ennemis seront mis pour marchepied de ses pieds. Ainsi, au psaume 109, nous voyons Christ dans son humiliation quand des hommes méchants ont parlé contre lui avec une langue menteuse, lui ont fait la guerre sans cause, lui ont rendu le mal pour le bien, la haine pour son amour, et ont persécuté celui qui a le cœur brisé pour le faire mourir. En présence d'une telle méchanceté, le Seigneur peut dire « Moi, je me suis adonné à la prière. » Le psaume 110 donne la réponse à sa prière. « Celui que les hommes ont rejeté est exalté à la droite de Dieu, attendant le moment où ses ennemis seront mis pour le marchepied de ses pieds et où il règnera de Sion, la ville dans laquelle il a été crucifié, pour juger les nations et bénir son peuple de franche volonté. » Nous avons vu que Pilate a essayé une première fois de ne rien avoir à faire avec Christ, en suggérant aux Juifs de le juger selon leur loi. Chapitre 18, verset 31. Toutefois, il n'y parvient pas, et il est contraint de s'occuper du cas. Pilate doit alors admettre qu'il ne trouve aucun crime chez le Seigneur. Par conséquent, son devoir est clair. La justice exige que l'innocent soit relâché. Mais, poussé par des intérêts personnels, Pilate cherche à rester en bon terme avec les Juifs. Il essaie donc une deuxième fois d'éviter la condamnation d'un innocent et, en même temps, d'apaiser les Juifs en recourant à une coutume selon laquelle un prisonnier était libéré à la Pâque. Mais, avec ou sans coutume, le devoir évident de Pilate comme juge est de relâcher celui en qui il ne trouve aucun crime. Cependant, non seulement ce compromis échoue, mais il permet de montrer les profondeurs de mal dans lesquelles la nation juive était tombée. Afin que la coutume soit observée, les Juifs préfèrent que Barabbas, emprisonné pour meurtre et brigandage, soit relâché. La méchanceté de nos cœurs est telle que, s'il s'agit de décider entre Christ et un tel homme, malgré toute notre aversion pour un meurtrier et un voleur, sans l'intervention de la grâce de Dieu, nous choisirons le meurtrier, celui qui enlève la vie, plutôt que celui qui la donne. Versets 1 à 7. Citation de l'Écriture. Alors donc, Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Et les soldats ayant tressé une couronne d'épines, la mirent sur sa tête et le vêtirent d'un vêtement de pourpre. Et vinrent à lui et dirent « Salut, roi des Juifs !» Et lui donnaient des soufflets. Et Pilate sortit encore et leur dit « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Et il leur dit « Voici l'homme !» Quand donc les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent disant « Crucifie, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Prenez-le, vous, et le crucifiez, car moi je ne trouve pas de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, car il s'est fait fils de Dieu. » Fin de citation. D'une manière évidente, il n'est jamais venu à l'esprit de Pilate que les Juifs préféreraient Barabbas. Mais par cette tentative de compromis, il tombe entre les mains du peuple et s'enfonce encore plus profondément dans la méchanceté comme juge injuste. Ainsi, dans une troisième tentative d'apaiser les Juifs et d'éviter de devoir prononcer la sentence extrême, il fait fouetter Jésus et permet aux soldats, par dérision, de lui mettre sur la tête une couronne d'épines, de le vêtir d'un vêtement de pourpre et de lui donner des soufflets. Puis il mène dehors le Seigneur portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre, preuve qu'il a cherché à satisfaire le peuple en couvrant de mépris celui qu'ils haïssaient. Il suggère de ne pas aller plus loin, vu qu'il ne trouve aucun crime en Jésus. Hélas, Pilate avait aussi peu conscience de la profondeur de l'inimitié du cœur des Juifs que de la dépravation totale de son propre cœur et de celui des gentils. Les coups de fouet et les insultes auxquelles le Seigneur a été soumis n'ont pas satisfait la méchanceté des Juifs. Le cœur plein de meurtre, il s'écrie aussitôt « Crucifie, crucifie-le !» Ils insistent non seulement sur sa mort, mais sur la mort la plus ignominieuse, celle d'un malfaiteur sur une croix. D'abord, Pilate recule devant une issue aussi extrême et, pour la quatrième fois, il essaie de trouver une échappatoire à une telle méchanceté en disant « Prenez-le, vous, et le crucifiez, car moi je ne trouve pas de crime en lui. » C'est la troisième fois qu'il prononce ces mots. Il rend ainsi un triple témoignage à la perfection de Jésus et à la faillite du gouvernement entre les mains des gentils. L'accusation selon laquelle le Seigneur se dressait contre les autorités romaines en prenant la place de roi des Juifs n'ayant produit aucun effet sur Pilate, les Juifs se replient sur une dénonciation plus solennelle. Ils disent « Il s'est fait fils de Dieu ». En vérité, il est le fils de Dieu. Mais il devint chair, comme nous lisons en Galates 4, verset 4, « Dieu a envoyé son fils, né de femme ». Versets 8 à 16. Citation de l'Écriture. Quand donc Pilate entendit cette parole, il craignit davantage, et il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu ? » Et Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate donc lui dit « Ne me parles-tu pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a plus de péchés. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, disant « Si tu relâches celui-ci, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Pilate, donc, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit sur le tribunal dans le lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. Or, c'était la préparation de la Pâque, c'était environ la sixième heure. Et il dit aux Juifs « Voici votre roi !» Mais ils crièrent « Hôte, hôte, crucifie-le » Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que César !» Alors donc, il le leur livra pour être crucifié. Et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Fin de citation. Cette nouvelle accusation augmente la crainte de Pilate, car, sans aucun doute, la majesté et la dignité qu'il pouvait voir chez le Seigneur devaient lui paraître infiniment supérieures à celles d'un homme ordinaire et se rapprocher du divin. Ainsi, le cœur saisi de peur, Pilate entre dans le prétoire et demande au Seigneur « D'où es-tu ?» La question est inspirée par la crainte, mais celle-ci n'était ni de la foi, ni le résultat d'un sentiment de besoin. Aussi, le Seigneur ne donna-t-il pas de réponse à Pilate. Mortifié par le silence du Seigneur, Pilate se vante de son pouvoir de le crucifier ou de le relâcher selon sa propre volonté. Il doit alors apprendre de la bouche de Jésus qu'il n'aurait aucun pouvoir contre lui s'il ne lui était donné d'en haut. Le Seigneur allait accomplir l'œuvre merveilleuse par laquelle Dieu est glorifié et les pécheurs qui croient sont bénis. Et ainsi, il est permis à l'homme d'employer son pouvoir pour exécuter le conseil défini et la préconnaissance de Dieu. Toutefois, Dieu sera juste en traitant le péché qui a conduit les hommes à crucifier le Seigneur de gloire. Juifs et gentils sont coupables de ce crime, le pire qui ait jamais été commis. Mais les Juifs qui ont livré leur Messie à la puissance romaine portent la responsabilité du péché plus grand. Au lieu d'éprouver de l'irritation face à cette réponse, comme cela aurait certainement été le cas si de telles paroles avaient été prononcées par une personne ordinaire, Pilate est visiblement encore plus impressionné et embarrassé. Il tente alors une dernière fois de relâcher le Seigneur, mais il ne fait que provoquer le péché suprême des Juifs, qui soulève une nouvelle opposition en faisant appel aux intérêts mondains de Pilate. « Si tu relâches celui-ci, avance-t-il, tu ne peux pas rester ami de César. » Aimant ce monde et n'ayant aucun sentiment de ses propres besoins comme pécheur, ni aucune appréciation de la grâce de Christ, Pilate est ébranlé par l'argument des Juifs concernant ses intérêts personnels et ses avantages dans le monde. Il s'assied sur le tribunal et, après une nouvelle faible tentative pour ne pas avoir à condamner celui en qui il avait témoigné à 3 reprises ne trouver aucun crime, il cède à leur cri « Hôte, hôte, crucifie-le !» Les Juifs ne voient aucune apparence en Jésus pour le leur faire désirer. Et Pilate, bien que convaincu de son innocence et impressionné par sa majesté et sa dignité, préfère l'amitié du monde au Fils de Dieu. Ainsi, Juifs et gentils s'unissent pour crucifier le Seigneur de gloire. Comme on l'a dit, Pilate et les Juifs étaient entièrement opposés quant à leurs pensées et à leurs désirs, mais Dieu n'était pas plus dans les pensées de l'un que des autres. Dans ces 2 versets, nous trouvons donc le résumé de la méchanceté des Juifs et des gentils. Les Juifs scellent leur destin en rejetant totalement leur Messie. En effet, ils déclarent « Nous n'avons pas d'autre roi que César ». Telle est l'apostasie publique des Juifs. Les gentils manquent totalement dans le gouvernement en livrant pour être crucifié celui dont il a été confessé à 3 reprises qu'il n'y avait aucun crime en lui. Ainsi s'achève la comparution devant Pilate, présentée d'une manière plus détaillée dans cet évangile que dans les autres. Tout ce qui se passe tend à mettre toujours plus en évidence la gloire de la personne de Christ et à augmenter la condamnation des Juifs et des gentils. Nous trouvons d'abord le témoignage au fait que Christ est le roi des Juifs, chapitre 18, verset 33, puis que son royaume n'est pas de ce monde, chapitre 18, verset 36, ensuite qu'il est venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité, chapitre 18, verset 37, qu'il est le Fils de Dieu, chapitre 19, verset 7, et finalement que, comme Fils de Dieu, il est celui contre lequel Pilate n'aurait aucun pouvoir s'il ne lui était donné d'en haut, chapitre 19, verset 11. Versets 17 à 30. Citation de l'Écriture. Et il sortit, portant sa croix, et s'en alla au lieu appelé lieu du crâne, qui est appelé en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Et Pilate fit aussi un écriteau, et le plaça sur la croix, et il y était écrit « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Plusieurs des Juifs donc lurent cet écriteau, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Et il était écrit en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs donc dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais que lui a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats donc, quand ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée tout d'une pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent donc entre eux « Ne la déchirons pas, mais jetons-la au sort à qui elle sera ». Afin que l'écriture fût accomplie qui dit « Ils ont partagé entre eux mes vêtements, et ils ont jeté le sort sur ma robe ». Les soldats donc firent ces choses. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère, Et le disciple qu'il aimait se tenant là, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait donc là un vase plein de vinaigre, et ils emplirent de vinaigre une éponge, et l'ayant mise sur de l'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit « C'est accompli ». Et ayant baissé la tête, il remit son esprit. Fin de citation. Le Seigneur se soumet au jugement des hommes, et, portant la croix sur laquelle il allait connaître l'abandon de Dieu, il se rend au lieu appelé « lieu du crâne ». Il est obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix, et cela en la plus vile compagnie, deux brigands. Toutefois, Dieu maintient un témoignage à Jésus, témoignage qui atteste également de la méchanceté des Juifs, car au-dessus de la croix, Pilate écrit « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». En outre, le témoignage sera rendu au monde entier, car il est écrit en hébreu, en grec et en latin. Les Juifs réalisent immédiatement que cet écriteau jette sur eux le terrible discrédit d'avoir laissé crucifier leur roi. Il vaudrait bien faire changer l'inscription, mais, fâché contre lui-même et contre le peuple, Pilate s'obstine. Il répond sèchement aux Juifs « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». De plus, en partageant entre eux les vêtements de Jésus, les soldats rendent un témoignage involontaire à la gloire de sa personne. Car il est celui dont il a été annoncé 1000 ans à l'avance, il partage entre eux mes vêtements, et sur ma robe il jette le sort. Psaume 22, verset 18. Les soldats donc firent ces choses, accomplissant la parole de Dieu. Au milieu de toutes les souffrances de la croix, brille la tendresse humaine du Seigneur. Au début de son ministère, il n'avait admis aucune interférence de sa mère dans sa mission céleste. Chapitre 2, versets 3 et 4. Cela ne l'empêche nullement de veiller aux besoins terrestres de celle-ci. Aussi maintenant la recommande-t-il aux soins d'un homme qui, plus que tous les autres, se confiait en l'amour de Jésus. Le disciple qui avait pu se coucher sur la poitrine de Jésus et qui, à 5 reprises, se décrit comme le disciple que Jésus aimait. Dès cette heure-là, Jean la prend chez lui. Il a été remarqué que, dans cet évangile selon Jean, il n'est parlé ni des souffrances dans le jardin de Gethsémané, ni de celle de la croix. En accord avec le propos de l'évangile, tout est présenté du côté divin. Avec une connaissance divine, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Puis il peut déclarer avec une certitude divine, « C'est accompli ». Nous lisons ensuite, ayant baissé la tête, il remit son esprit. Dans les évangiles selon Marc et Luc, la même affirmation est faite, mais un mot différent est employé. Il expira. Marc 15, verset 37, Luc 23, verset 46. Une telle expression pourrait être employée pour quiconque, mais en Jean, il s'agit de son propre acte divin. Jésus lui-même remit son esprit. Un homme peut sauter la vie, mais personne ne peut, par un acte de volonté, séparer son esprit de son corps. Le Seigneur le fait en tant que Fils, comme il l'a déjà dit dans cet évangile, « À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais moi je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser, et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Chapitre 10, versets 17 et 18. Versets 31 à 42. Citation de l'Écriture. Les Juifs donc, afin que les corps ne demeurassent pas sur la croix en un jour de sabbat, puisque c'était la préparation, car le jour de ce sabbat-là était grand, firent à Pilate la demande qu'on leur rompît les jambes et qu'on les ôtât. Les soldats donc vinrent et rompirent les jambes du premier et de l'autre qui était crucifié avec lui, mais étant venus à Jésus, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est véritable, et lui sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Car ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie, « Pas un de ses os ne sera cassé. » Et encore une autre Écriture dit, « Ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. » Or, après ces choses, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, en secret toutefois par crainte des Juifs, fit à Pilate la demande d'ôter le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et ôta le corps de Jésus. Et Nicodème aussi, celui qui au commencement était allé de nuit à Jésus, vint, apportant une mixtion de myrrhe et d'aloès, d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge, avec les aromates, comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or, il y avait, au lieu où il avait été crucifié, un jardin, et dans le jardin, un sépulcre neuf dans lequel personne n'avait jamais été mis. Ils mirent donc Jésus là, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Fin de citation. Les scrupules des Juifs et la brutalité des soldats les conduisent à rompre les jambes des deux brigands et à percer le côté du Sauveur. Combien ces hommes étaient loin de réaliser qu'ils envoyaient un croyant au paradis et suscitaient le témoignage à la grâce purificatrice et salvatrice de l'œuvre de Christ. Ils accomplissaient également les Écritures qui disent « Pas un de ses os ne sera cassé » et « Ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé » Exode 12, verset 46, Nombre 9, verset 12, Psaume 34, verset 20, Psaume 22, verset 16 et 17, Zacharie 12, verset 10. De plus, la prophétie d'Ésaïe trouve son accomplissement. Il avait dit « On lui donna son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche dans sa mort, parce qu'il n'avait fait aucune violence et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. » Ésaïe 53, verset 9. Ainsi, quand tous les autres se sont enfuis, des hommes riches de rang social élevé montent au front et obtiennent le corps du Sauveur qu'ils mettent dans un sépulcre neuf avec des aromates. Il a été remarqué à juste titre que « l'iniquité poussée à son comble amène les faibles à se montrer fidèles. » Pensée de Gien Darby. Combien souvent cela s'est vérifié dans l'histoire du peuple de Dieu. Ces deux croyants, qui jusque-là avaient été empêchés par leur richesse et leur position sociale de s'identifier avec Christ dans son chemin d'humiliation, se déclarent maintenant résolument de son côté.